cet épisode, donc, sur le Sinaï, le don de la loi, bien sûr, mais la vraie loi et le véritable temple, là, c'était vraiment, sur le Sinaï, une montagne en passant, pas n'importe laquelle, puisque le Seigneur a daigné descendre sur elle, mais une montagne parmi d'autres. Le temple de Jérusalem, lui, il est construit en dur, et voilà cette méditation de carême. C'est, il faut purifier ce temple et, bah, de ses scories, de son commerce en l'occurrence. C'est-à-dire réduire la chose religieuse, la chose sacrée à une chose profane. Et ça, c'est forcément un grand malheur pour nous. Lorsque nous agissons ainsi, nous nous laissons grignoter par le quotidien et par cette vie quotidienne trop souvent profane précisément. Or le carême, bah, c'est un temps pour se renouveler. Il y a dans la conclusion, enfin d'abord lorsque Jésus agit ainsi, les autorités religieuses l'interpellent en disant « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi » C'est-à-dire donc pour justifier de ton autorité. Qu'est-ce qui te permet d'agir ainsi? Et à la fin du texte, eh bien, on a à nouveau une référence aux signes. Et beaucoup, pendant qu'il était à Jérusalem, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Ah, les signes, ça c'est très, très lié aux Juifs. Ils demandent toujours des signes, c'est ce que dit saint Paul. Les Juifs attendent des signes. Le problème, c'est que lorsqu'on est encore immature, bien les signes du Seigneur, on ne peut pas les recevoir. Et le seul signe que Jésus donne, c'est le signe de la résurrection. Or celui-là, il faut vraiment cheminer pour pouvoir le reconnaître. Vous voyez, les gens passaient leur temps, les foules, à admirer les miracles de Jésus. Tous les signes qu'il accomplissait précisément. Et ils en voulaient, là, pourquoi pas un de plus. Mais il leur en fallait toujours. C'est comme ceux qui se nourrissent de la grâce de Dieu, mais à condition qu'elle nous fasse des signes tous les jours aussi. Des signes de la présence de Jésus dans nos vies. Par des joies, par une bonne humeur, ou par une aide très concrète dans des épreuves, etc. On demande toujours des signes, et dès que les signes se taisent, dès qu'on se retrouve au désert, on commence à récriminer, mais comment Jésus peut me laisser dans une nuit pareille, seul? Comment peut-il m'abandonner? Est-ce qu'il existe vraiment, finalement, Dieu, puisqu'il se tait comme ça? Et si le temps devient long, les risques de perdre la foi pour ces gens encore immatures, ces âmes immatures, est grand. Voilà ce que c'est que ces signes que demandent les Juifs à Jésus. Mais Jésus, lui, sait bien ce qu'il y a dans l'homme. Il connaît les temps et les saisons spirituelles des hommes. Et il sait que la foi ne peut être fondée que sur un seul signe, véritablement. Le signe de la résurrection. C'est le seul signe sur lequel notre foi doit reposer et ne peut que reposer. Sinon, les autres signes, on les oublie à peine manifestés. C'est pas assez fort, c'est pas assez fondamental. Intervenir pour rendre, la vie, comme dans les rayonnages dédiés à la vie spirituelle, dans les supermarchés, c'est toujours pour avoir... pour pas déprimer, quoi, pour avoir une vie un peu colorée. Alors, il faut bien respirer et bien s'oxygéner. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut manger de la viande rouge, vous voyez, ce genre de trucs. Jésus, lui, sait ce dont nos âmes ont vraiment besoin. Alors, il y a aussi, dans ce passage, quelque chose de très important, c'est la parole même, la réponse de Jésus. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. On sait que lors de l'arrestation et du procès du Seigneur, cette parole-là, eh bien, a fait l'objet de charges contre lui. Il n'a pas été condamné pour ça, il a été condamné pour blasphème, pour s'être proclamé fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais on a d'abord essayé de le mettre à mort à partir de cet épisode de la purification du temple. Les faux témoins disent, ils détournent le texte, bien évidemment, ils détournent les paroles du Seigneur. « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire 3 jours après. » Voilà ce qu'ils nous disent. Donc là, ce serait un Jésus qui... orgueilleux, un Jésus qui se gonflerait de sa nature divine, qui mettrait en avant la puissance. « Je peux détruire le temple de Dieu. » Détruire le temple de Dieu, c'est détruire tous les moyens d'accéder à Dieu. Le temple, c'est le lieu de rencontre avec Dieu en tant que lieu d'adoration. Certes, le reconstruire en 3 jours, toujours le thème de la puissance, à ce moment-là, c'est le sens de la phrase. C'est-à-dire isoler Jésus du Père. Lui, à nouveau, il y a le tentateur là qui est derrière les lèvres du grand prêtre, Caïphe, pour essayer de le dissocier du Père, de son obéissance au Père. Les seules paroles de Jésus donc, qui sont prises en charge contre lui à ce moment-là concernent ce temple. Parce que le temple, c'est les grands prêtres considéraient que c'était leur propriété. Et en tout cas, ils en tiraient beaucoup d'argent, énormément d'argent. Jésus dit réellement, détruisez ce temple, ce sanctuaire. Mais il ne parlait pas du temple de Jérusalem. Les Juifs lui parlent, évoquent le temple de Jérusalem. Mais là, ici, Jésus ne fait aucune référence à ce temple-là. Et parce que lui pense évidemment au temple de son corps, eh bien, les Juifs comprennent de travers, bien évidemment. D'ailleurs, le signe de la résurrection est à ce moment-là totalement incompréhensible. Ça reste un mystère qu'il faut méditer, comme pour nous aujourd'hui, en ce début de carême, enfin, en cette progression dans le carême. Il nous faut méditer ce que peut bien être la résurrection, parce que nous sommes loin de savoir ce que ça veut dire. Très loin. Cette vie nouvelle, cette vie en Jésus, comme Jésus, à son image, le voir face à face parce que nous serons semblables à lui, c'est quelque chose qui vraiment nous échappe. Mais alors vraiment, le temple de son corps, voyez, les temples véritables qu'ont dressé les chrétiens, ce sont ces églises. Mais ce n'est pas le bâtiment, c'est le Saint-Sacrement présent dans l'église qui qualifie le temple en tant que tel. Et c'est Jésus présent en nous-mêmes, l'inhabitation divine, par le baptême, qui fait que nos âmes sont et doivent être des temples du Seigneur. Le temple véritable, c'est toujours le Christ. C'est pourquoi il parle de son corps et il a bien raison de le faire. C'est lui, dans sa personne tout entière, qui est le temple véritable, pas cet amas de pierres, que va bientôt devenir le temple de Jérusalem. L'adoration en esprit et en vérité exige cette foi au Christ. Notre foi doit reposer vraiment sur le Christ. Et notre adoration et notre amour. Alors le signe de la résurrection, c'est quoi? C'est évidemment la victoire sur la mort, le don de la vie éternelle. Mais pas seulement pour Jésus. Alors ça justifie son autorité, effectivement, pour purifier le temple, mais pour nous-mêmes. Et voilà ce que nous devons méditer continuellement. Si vous faites reposer votre foi sur quelque chose d'autre, un autre attribut de Dieu, bien sûr, par exemple la sagesse, par exemple même la miséricorde, ça ne suffit pas. Jésus nous dit, le signe qu'il nous montre, c'est pas le partage, même si le partage est très important, c'est le signe de la résurrection, la victoire sur la mort. Alors, elle n'est pas en notre pouvoir de ressusciter, ça ne nous appartient pas. Mais par la foi, Jésus nous promet de nous faire ce don-là. La purification du temple, eh bien, en temps de carême, on devrait vraiment l'appliquer à notre âme. C'est la purification de l'âme par l'évocation de la passion. Parce que lorsque Jésus dit « détruisez ce temple », il dit bien que ce sont les hommes qui vont détruire le temple et pas lui. Et que ces hommes, ce sont eux qui détruisent le sacré sur la terre, qui détruisent la vérité sur la terre, qui détruisent l'amour sur la terre. Ce n'est pas Jésus. Mais Jésus vient, eh bien, quand c'est détruit, relever. C'est ce qu'il nous propose. Mais pour relever un temple, il faut le purifier. En fait, c'est ça. La purification du temple, c'est remettre le temple debout. Et ce temple, c'est notre âme, l'âme de chacun d'entre nous. Par la toute-puissance divine, de même qu'il habite toutes les églises où se trouve le Saint-Sacrement, eh bien, Jésus habite toutes les âmes qui lui sont consacrées par le baptême. Oui, Jésus se méfie de l'enthousiasme passager des hommes, parce que leur foi repose sur des dons secondaires de Dieu. Il faut vraiment construire notre foi sur le roc, pour le coup. Alors, cette année est dédiée à la prière, selon la volonté du pape François. Eh bien, apprenons à habiter notre temple intérieur, à le découvrir, ce temple intérieur, cette âme qui est faite avec ses trois facultés à l'image de Dieu, l'entendement, la volonté, l'amour, quoi, le cœur, et puis la conscience profonde de soi qui est la fusion et de la connaissance et de l'amour. C'est cette conscience, cette mémoire profonde, comme disait saint Augustin, la mémoire qui n'est pas seulement personnelle comme la mémoire psychologique. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une mémoire qui est aussi collective, une mémoire qui se souvient, alors évidemment par bribes, sous forme d'intuition, du paradis terrestre, qui se souvient qu'en tant que créature, elle était destinée, cette âme, à être éternelle, qui se souvient d'avoir été complice du mal, elle ne sait pas trop comment, et de s'être retrouvée nue et seule. Voilà le genre de mémoire complètement spirituelle, de bribes, d'intuition qui habite notre conscience profonde. Sommes-nous jamais descendus assez profondément pour entendre leur écho? Alors, en ce temps de carême, eh bien, écoutons, faisons silence et écoutons la voix du Seigneur.